Bienvenue au Mâche Patate, le podcast éclaté des urbainculteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité.
Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités
et on se fait aller Mâche Patate!
Bonjour, bienvenue au Mâche Patate, le podcast des urbainculteurs. Je suis Marie-Hélène Dubé et je co-anime avec joie cet épisode avec ma collègue Marie-Hélène Jacques.
Salut! Alors aujourd'hui, on aborde un sujet à pattes et à plumes, un sujet animal.
Oui, on va jaser de poules urbaines. Il y a un énorme engouement sur les poulettes de ville depuis quelques années, puis de plus en plus de villes les permettent aussi au Québec, tandis que d'autres les tolèrent, disons. Mais pourquoi les gens veulent des poules dans leur cour?
Ben d'abord pour avoir des œufs frais, hein, à portée de main tous les jours, pour en connaître la provenance, pour en connaître la qualité, aussi pour avoir l'assurance que les animaux sont bien traités. Des fois, c'est pour éduquer les enfants sur la provenance des aliments ou simplement, je dirais même, pour avoir des animaux de compagnie sympathiques.
Ben oui, parce que c'est peut-être pas évident quand on les connaît pas trop de dire que les poules sont sympathiques, là, si vous les avez pas trop côtoyées. On peut parfois penser que les poules, ben, c'est un peu nono puis que ça fait pas grand-chose, mais vous serez surpris de découvrir qu'elles peuvent être très affectueuses et intelligentes.
Il y a aussi des avantages qui sont pas nécessairement ceux auxquels on pense en premier quand on envisage l'idée d'avoir des poules, mais c'est des avantages qui apparaissent par la suite. Pour certaines personnes, notamment, ça réduit de beaucoup les déchets qu'on produit. On va sûrement en jaser avec notre invité. Puis en plus, ça peut créer des belles relations avec nos voisins.
Mm-hmm. Notre invité aujourd'hui, c'est Martin Boisvert. C'est un grand passionné de la poule. Il a fondé en 2017 une entreprise qui s'appelle Neoterra et qui fait la promotion de la garde de poules dans le cadre de petits élevages, le tout inscrit dans une perspective permaculturelle. Là, si vous vous dites « qu'est-ce qu'elle vient de dire là, une perspective permaculturelle », on va en parler un peu avec notre invité, mais je vous invite aussi à écouter l'épisode 12 du Mâche Patate où on parle de la permaculture. Sur ce, bienvenue Martin au Mâche Patate.
Merci de me recevoir.
Ça fait plaisir. Fait qu'on disait en introduction que les poules étaient affectueuses, étaient intelligentes, même si on pense pas de premier abord. Qu'est-ce que toi t'en penses?
Oui, en fait, elles peuvent être très affectueuses. Il y a une grande variabilité d'une race à l'autre en termes de docilité, je dirais, de facilité d'approche des poules, là. Mm-hmm. Mais de les manipuler au quotidien, peu importe le type de race qu'on a, là, on peut vraiment favoriser la docilité, là. Puis il y en a qui se laissent prendre dans les bras. Puis on dirait que les poules sont plus faciles d'approche par les enfants. Je sais pas si c'est une question de stature, c'est un mini-humain qui approche. On dirait que ça fait moins peur, fait que la poule, elle se laisse plus facilement prendre par les enfants. Mm-hmm. Donc, voilà. Puis pour le volet intelligence, c'est sûr que si on regarde l'intelligence dans un prisme, à travers un prisme de l'être humain, puis là, tu vois dans la nature, parce que des poules dans la nature, ça existe, une poule qui va manger sa congénère qui est morte, tu vas te dire, c'est donc bien dégueulasse, c'est du cannibalisme. Mais la poule a quand même son intelligence à elle qui s'exprime à travers ses comportements naturels. Elle est capable, dans son vocable, elle a peut-être 35-40 sons différents qu'on est capable de déceler, okay, qui lui permet de communiquer. Puis qu'on est capable aussi de déceler parfois, par exemple, quand il y a un prédateur proche, mm-hmm, il y en a souvent la poule dominante qui va se mettre à crier plus fort. Puis à ce, mm-hmm, moment-là, on est capable de se dire, faudrait que j'aille jeter un œil parce qu'il se passe quelque chose, là.
J'ai déjà vu qu'il y avait des poules qui savaient compter, non? C'est pas toi, Marie-Hélène, qui m'avait montrer ça, oui, à un moment donné.
Oui, enfin, c'est il y a une entreprise au Québec qui s'appelle, je pense, les poules savantes, puis qui font des animations dans, oui, les bibliothèques puis les garderies puis tout ça, puis ma fille était allée puis elle m'avait raconté, mm, que les poules comptaient, tu sais.
Oui, ils peuvent apprendre toutes sortes, ouais, de choses, ouais, aux poules. Ben oui, c'est chouette.
Ouais. J'ai la forte impression que les gens qui souhaitent avoir leur propre poule sont très préoccupés par leur bien-être. Donc, de quoi ça a besoin une poule en ville ou dans un petit élevage là pour être heureuse?
Oui, en fait, de quoi ça a besoin une poule, en fait, il y a besoin de pas être seul. Je, mm-hmm, commencerai par ça. Pourquoi? Quand je donne mes formations, je me réfère toujours au comportement naturel de l'animal. Quels, ouais, sont ses besoins naturels? La poule vit en groupe, c'est un être qui est social. Donc, toute seule, elle va s'ennuyer pour mourir. Donc, ça prend minimalement 3 poules, à mon avis, pour qu'il y ait une dynamique sociale qui s'installe, puis ainsi que la hiérarchie qui va s'installer naturellement dans le groupe. Il va avoir une poule qui va être dominante, puis il va avoir des poules, dans le fond, qui jusqu'à la plus dominée du groupe. Mais la nature le veut comme ça. Tout est correct. Dans notre œil, à nous, des fois, c'est un petit peu « Ah, pauvre petite poule qui est la plus dominée. » Mais c'est correct. Tant qu'elle est capable de manger, de subvenir à ses besoins, il n'y a, mm-hmm, aucun problème, là. C'est sûr que le bien-être animal, là, c'est super important. Puis il y a une préoccupation qui est grande de ce côté-là, à mon avis, là. D'où, ben oui, d'où l'idée de donner mes formations, parce que la prémisse de base, c'est les gens se lancent, il y a un effet d'engouement, une mode, mm-hmm, Mais il y a beaucoup de gens qui se lancent avec plus ou moins d'informations en se disant que les poules, c'est facile à élever, ça s'élève tout seul, on donne des restants de table et tout ça, mais il y a plusieurs besoins auxquels répondre, d'où le besoin d'avoir les bonnes informations.
Ouais, en termes d'espace, là, tu sais, est-ce que quelqu'un peut se dire hey, j'ai une cage à chat, je vais avoir une poule dedans, là, tu sais, j'ai un balcon, je peux avoir des poules, tu sais, qu'est-ce que tu penses qui est la qu'une propriété doit avoir de base là, pour être en mesure d'acquérir des poules heureuses.
Tu sais, si on parle, mettons, de 3 poules, moi, ce que je prescris aux gens comme espace poulailler, minimalement 4 pieds carrés par poule, fait qu'un 12 pieds carrés, un 3 pieds par 4 pieds, c'est suffisant. Là. 90 cm par 120 cm, c'est suffisant comme espace intérieur. Puis on va à peu près le doubler minimalement pour l'espace extérieur, pour l'enclos. Puis si on met le poulailler surélevé par rapport au niveau du sol, on a déjà un espace extérieur sous le poulailler qui est un espace ombragé aussi parce que les poules au gros soleil, ça fait pas ça fait pas leur affaire.
Ouais, on veut pas des petits poulets rôtis.
Non, pas du tout. Donc à ce moment-là, de les mettre de surélever le poulailler comme ça, on optimise l'utilisation de l'espace comme ça. Fait que je dirais grosso modo pour 3 poules, on pourrait avoir un 24 pieds carrés. Autour d'eux. C'est sûr que si vous pouvez donner plus d'espace extérieur, c'est mieux, mais minimalement, ça serait ça.
Fait qu'il faut au moins avoir une petite cour en ville, là, on comprend.
Oui, ouais. Pas un balcon, parce que pourquoi? On veut que la poule puisse exprimer son comportement, notamment de grattage, de recherche de nourriture. Sur un espace pavé, bétonné, là, elle pourra pas le faire. Ouais. Donc, ça serait pas l'idéal.
Non, c'est ça, j'ai entendu quelques exemples de gens qui gardent des volailles là, sur des toits. En ville. Mm-hmm. Puis c'est ça, au niveau de la chaleur,
Je me questionne aussi. Je demande à savoir si la poule est pas en train de suffoquer, parce que même, on a eu un gros été l'été passé.
Ben, t'imagines.
Fait qu'imagine là, la température plus élevée sur un toit. Ouais. Tu sais, des 32 degrés à l'ombre, là, la poule, elle reste à l'ombre, puis elle ouvre le bec, puis elle haletante, elle respire plus rapidement. C'est son moyen de ventiler, sortir la chaleur, là, parce qu'elle sue pas, la poule.
Okay. Ouais. Sinon, on jardine sur des toits, là. Fait qu'on le sait, là, qu'il fait chaud sur des toits.
C'est clair.
C'est quand tu montes, quand tu jardinais sur le toit de l'Aube-Rivière, quand tu montais l'escalier, tu sentais quand tu frappais le mur, là. Puis je sais pas si je l'ai déjà dit en ondes, là, mais en tout cas, c'est une anecdote que je raconte souvent, mais j'avais des gougounes. OK, c'était pas super CSST, mais à l'époque, hein, on était un petit OBNL un peu lousse. Puis mes gougounes étaient fondues.
Pour de vrai.
Ouais, tu sais, la semelle était rendue toute affaissée parce qu'à force de marcher sur le toit brûlant, là, c'est ça, j'avais des gougounes fondues.
Wow.
Ouais, fait que c'est chaud de même, tu sais.
Oui, oui. Fait que moi, je demande à voir avant de commencer à le prescrire, là, si jamais vous avez le seul espace que vous avez, c'est sur un toit bémol.
Mm-hmm. Ouais, en tout cas, ça prend un sacré setup, là. Faut avoir pensé à tout, j'imagine. Ouais.
Puis pour en revenir au poulailler, tu parlais un petit peu de la grandeur. À part la grandeur, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un poulailler, ça soit un bon poulailler pour une poule, dans le fond, qu'elle soit confortable?
En fait, je pourrais parler peut-être de l'équipement qu'on peut mettre dans le poulailler pour répondre à ses besoins. À ce moment-là, la poule aime se percher. C'est un comportement naturel qu'elle a. C'est un animal qui est une proie pour bien des prédateurs. Mm-hmm. Donc, naturellement, pour faire le guet, pour vérifier dans son environnement qu'il n'y ait pas de prédateurs qui rôdent pour sauter dessus, à ce moment-là, elle a tendance à se percher. Fait que ça prend au moins un perchoir à l'intérieur du poulailler. Ça va prendre aussi au moins un pondoir, l'endroit où la poule va faire son nid pour pondre ses œufs. Dans la nature, la poule, elle cherche un endroit intime, à l'abri des regards, pour aller pondre ses œufs.
C'est un peu pudique.
Donc, un peu pudique, si on veut. Ou c'est plus pour être aussi à l'abri des prédateurs, pour élever ses petits. Dans le fond, elle pond ses œufs, elle les couvre pendant 21 jours et par la suite, les œufs vont éclore et puis les poussins, elle va pouvoir s'en prendre soin. Fait que c'est un peu un comportement qu'on retrouve encore aujourd'hui. Elle recherche un coin intime à ce niveau-là. Je dirais aussi dans la qualité des matériaux du poulailler, ça c'est super important. Il y a beaucoup de gens qui font des constructions avec des panneaux d'OSB, les espèces de copeaux de bois agglomérés dans de la colle. Ouais. La présence de colle, quand il fait très chaud justement, ça dégage des composés organiques volatiles qui est un irritant au niveau pulmonaire. La poule est fragile au niveau pulmonaire, donc c'est pas très bon pour elle. Puis il faut pas oublier que les œufs sont poreux. Mm-hmm. Fait que ce contaminant-là pourrait se retrouver dans les œufs, puis nous, on va les consommer par la suite. T'sais, on se rappelle des histoires, là, les œufs prennent l'odeur du frigo. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça.
Ben oui.
Là.
Ben oui.
Ah ouais, moi, donc, j'ai jamais entendu ça.
Donc, les c'est le même phénomène.
Non? C'est pour ça que le beurre, comme son penthouse, là, tu sais, sa petite cabane dans le...
Ah, tu vois, tu viens d'expliquer, tu viens de répondre à une de mes questions, effectivement.
Ben oui.
Je savais pas pour le beurre. C'est ça, la coquille est poreuse. Pourquoi? Petite histoire, c'est que le poussin, quand il va se développer dans l'œuf, en fait, l'embryon de poussin, là, disons-le comme ça, à un moment donné, il se met à respirer. Mm-hmm. Il est pas relié à sa mère par un cordon ombilical, fait qu'il faut qu'il y ait des échanges qui se fassent avec l'extérieur. C'est pour ça que la coquille est poreuse. Donc, puis aussi, je dirais que il y a beaucoup de gens qui vont se tourner vers des poulaillers qui sont d'entrée de gamme, puis ça vient beaucoup de la Chine, ces poulaillers-là. Fait que oui, c'est pas cher, mais ça vaut ce que ça vaut aussi. Là, j'entends toutes sortes d'histoires des gens qui ont un poulailler, ça fait 2 ans, puis au bout de 2 ans, ben, c'est comme en lambeau, c'est en train de se défaire à vue d'œil. Fait que faut savoir aussi qu'on en a habituellement pour notre argent. Là.
Mais justement, est-ce que tu peux nous dire un peu où on trouve ça, un poulailler? Où est-ce qu'on peut s'en procurer? Est-ce qu'on est mieux de le fabriquer nous-mêmes?
Fabriquer nous-mêmes, assurément, je trouve que c'est un sacré beau projet à faire soi-même.
Mais pas en USB.
En fait, pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, moi, ce que je recommande aux gens, c'est d'acheter du bois naturel puis de le traiter avec une huile comme de l'huile de ricin ou de l'huile de lin, qui est pas chère. Le principe, c'est que le bois va absorber l'huile puis il va devenir imputrescible parce que l'eau peut pas rentrer, il est saturé d'huile. Puis ça fait un traitement. Moi, mon poulailler, je l'ai construit en 2013, puis je vais peut-être refaire un premier traitement depuis le début cet été. Fait que ça dure vraiment longtemps. Puis le bois naturel est moins cher aussi que le bois, assurément le bois traité ou du cèdre aussi. Mais le cèdre fait très bien l'affaire, c'est juste son défaut, c'est qu'il est un petit peu plus cher. Fait que le faire soi-même, c'est trippant. On peut se faire un beau petit projet à notre image avec des matériaux récupérés à gauche puis à droite. Fait que on peut vraiment faire quelque chose de le fun. Sinon, si vous avez pas le temps ou si vous sentez pas habile à le faire, ben là, pour répondre à l'engouement qu'on voit s'exprimer dans l'activité de la garde de poules, il y a de plus en plus d'artisans qui proposent des modèles. Moi, je vois ça passer sur Facebook, des gens qui offrent des poulaillers.
Ouais.
Fait que ça serait de regarder, dans le fond, c'est quoi le type d'assemblage, le type de matériaux qui sont faits. Puis, tu sais, ça peut très bien faire l'affaire. Ça va coûter un petit peu plus cher, mais on encourage quelqu'un du Québec qui a souvent un certain talent manuel, tout ça. Fait que ça peut être le fun aussi d'encourager.
Ouais, juste comme tu disais, d'être bien renseigné sur les dimensions adéquates, la présence de perchoirs, de pondoirs, parce que j'imagine que même, que c'est facile de se perdre parmi toute cette offre-là. Tu sais, moi, on a fabriqué notre propre poulailler à la maison, puis déjà, si je referais mon poulailler, je le ferais différemment, tu sais.
Oui, t'as appris de cette expérience-là.
Oui, déjà, je rêve d'un deuxième poulailler. Fait que je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de bien étudier la question, parce que c'est quand même un gros investissement, autant si on l'achète que si on le fabrique, de bien savoir c'est quoi un poulailler adéquat et fonctionnel.
Exact. La question de l'espace, évidemment, on a parlé perchoir, pondoir, mais dans la formation que je donne, on regarde ces volets-là pour que la personne, justement, soit avisée dans ses achats qu'elle voudrait faire notre poulailler.
Ben oui. Pas juste pour le bien-être des poules, mais pour son bien-être à elle aussi, tu sais, que ce soit facile à entretenir, à déneiger, il y a tout ça là qui allège le... Parce que justement, je voulais te poser la question de la charge de travail que ça représente, tu sais, au quotidien. Est-ce que c'est fini les week-ends dans Charlevoix, là? Tu peux plus bouger, là, faut que tu nourrisses tes poules, tu sais, comment ça se traduit?
C'est vraiment, ça demande pas beaucoup de temps au quotidien, tu sais. Si on explique un peu la routine quotidienne typique, je dirais, c'est le matin, on va ouvrir la porte des poules pour qu'elles puissent aller à l'extérieur, parce que c'est un animal qui doit pouvoir aller à l'extérieur tous les jours, même l'hiver, à mon avis. On va parler du volet hivernal plus tard, je crois. Et puis, à ce moment-là, on regarde si elle a assez de nourriture, assez d'eau. Souvent, le matin, elle va pondre ses œufs, mais pas toujours. Ça dépend des races. Je me suis rendu compte que certaines races pondaient plus le matin, d'autres plus tard dans la journée. En fin de journée, on fait un peu l'inverse. On peut ramasser les œufs qui restent à ce moment-là. Puis souvent, l'été, là, on va passer, on va laisser nos poules libres sur la propriété pour aller chercher un peu de la nourriture, de l'herbe, ces choses-là. Fait que ça peut être le fun. Fait que je dirais au quotidien, là, ça peut être aussi simple que 2, 3, 4 minutes, là, tu sais. C'est pas très long. Mais souvent, surtout avec des enfants, là, tu sais, tu passes du bon temps avec ces animaux-là, et puis donc c'est pas un fardeau du tout, là. Fait que ça, au niveau quotidien, ça serait ça. Je dirais de manière un petit peu plus espacée. Il y en a que c'est hebdomadaire ou plus espacé. Ben là, ça serait le nettoyage du poulailler. Puis c'est justement pour rejoindre ce que tu disais, Marie-Hélène, quand on a bien prévu notre poulailler pour que ça soit simple de nettoyage, c'est pas une corvée, on n'aura pas tendance à repousser cette tâche-là parce qu'on dit « Ah, ça va être fastidieux comme corvée ». Fait qu'à ce moment-là, tu sais, moi, je le fais avec une trappe qui s'ouvre dans le bas du poulailler, puis j'ai accès directement au plancher sans rebord. Fait que j'ai juste à tirer la matière avec un grattoir. Fait que ça, on peut le faire, dans le fond, il y en a qui le font aux semaines. Moi, aux 3 semaines, c'est suffisant parce qu'on le voit à l'usage. C'est un peu comme une litière de chat, je dirais. Là. Tu sais, à un moment donné, la litière atteint sa capacité maximale d'absorption de l'humidité.
Mm-hmm.
Fait que là, tu sais, si ça se met un peu à sentir, à ce moment-là, c'est qu'on a dépassé un peu. Fait qu'on peut réajuster le tir pour la prochaine fois. Là. Fait que un nettoyage, ça peut prendre un 10 minutes, tu sais, à une fréquence hebdomadaire ou un petit peu plus espacée. Puis il y en a qui vont faire un gros nettoyage annuel de leur poulailler. Moi, je juge c'est pas nécessaire si on n'a pas une maladie quelconque dans notre poulailler. On pourrait juste enlever des fois les toiles d'araignée, dépoussiérer un petit peu, mais un nettoyage, là, frotter avec un produit, là, à mon avis, c'est pas nécessaire.
Mm-hmm. Fait que pour la question de comme partir en week-end, faut quand même que quelqu'un vienne, tu sais, ouvrir la porte, puis les rentrer la nuit.
Il y a comme deux options, en fait. Je pense que c'est quand même assez simple de demander à un voisin, une voisine de passer, parce que là, la monnaie d'échange, c'est évidemment les œufs.
Ah, ben ouais.
C'est toi, voisine, je t'offre les œufs que tu vas collecter pendant mon absence. En contrepartie, occupe-toi des ouvrir, fermer la porte, changer l'eau, ajouter de la nourriture. T'sais, c'est essentiellement ça. Mais si pour toutes sortes de raisons, les voisins sont pas disponibles ou vous êtes dans un milieu où il y a pas de voisins ou peu importe, on peut développer une autonomie, je dirais, de facile 3-4 jours. Dans nos installations, dans le fond, le plus important, là, c'est la nourriture, qu'il y ait assez de nourriture pour tout ce temps-là, assez d'eau pour tout ce temps-là, puis aussi l'aspect sécuritaire pour, à mon avis, pas que les poules restent à l'intérieur du poulailler pendant 3-4 jours.
Mm-hmm.
Fait qu'à ce moment-là, qu'elles puissent aller à l'extérieur, idéalement dans une volière à ce moment-là, ce qui fait en sorte que une volière, c'est un enclos, mais qui a un toit par-dessus, soit un grillage ou vraiment une toiture. Fait que là, on a un endroit qui est comme blindé. Les prédateurs peuvent pas du tout rentrer, même ceux qui grimpent comme le raton laveur. Fait que ça fait en sorte qu'il y a pas personne qui a à ouvrir et fermer la porte qui donne accès à l'extérieur aux poules matin et soir. Ceci étant dit, il existe aussi des portes à ouverture et fermeture automatique programmables. Fait que si vous avez juste un enclos, pas de grillage sur le dessus, style volière, à ce moment-là, en ayant une porte comme ça, ben,
on est correct. De luxe.
Ouais. Fait qu'un 3-4 jours, là, la fin de semaine de Pâques, vous pourriez partir, puis il y aurait pas de problème, là.
Mais je te pose une question intentionnellement naïve, là, mais comment tu fais pour être sûr que tes poules sont rentrées quand la porte se ferme, quand t'as une porte automatique?
Ben, en fait, souvent, ils développent l'habitude, vous allez le voir, là, il y en a des fois, là, vous commencez à avoir des poules, puis tout dépendant à quel endroit ils ont été élevés, des fois, ils vont trouver du confort à l'extérieur. Si vous avez, mettons, ils ont accès à un arbre, là, il y a même des poules qui... La poule, naturellement, va chercher l'endroit où se percher le plus haut accessible, fait que... Je vois des fois des photos de gens, mes poules sont parquées à 10 pieds dans les airs dans mon... Souvent, c'est des conifères parce que le branchage comme facilite la montée, là. Fait qu'ils se retrouvent là, mais souvent, quand ils développent l'habitude au quotidien d'aller, de rentrer à la noirceur au poulailler, il n'y a pas de raison de croire que pendant votre absence, ça va être comme la folie. On invite les chums de filles, puis là, tu sais, là, c'est la débauche. Non, ça sera pas ça.
C'est ça. Au fond, les poules rentrent d'elles-mêmes quand le soleil se couche, là. Fait qu'il n'y a pas d'inquiétude à penser que nos poules vont rester à l'extérieur, embarrées.
Ben ouais.
Par le système. Puis là, on parlait de nettoyer le poulailler, tu sais, de retirer la matière, hein. Fait que ça veut dire qu'on a des poules, qu'on devient un producteur de fumier de poules. Fait que comment on gère ça, cette nouvelle matière résiduelle dans notre vie?
Ouais, en fait, j'invite vraiment les gens à le voir comme une ressource, là, parce que quand tu te mets à te renseigner sur la valeur fertilisante, je dirais, des déjections de poules, c'est vraiment une matière qui est prisée en elle-même. Il se vend des granules déshydratées, là, on voit ça beaucoup en agriculture biologique, là, c'est accepté en bio, tout ça. Mais là, l'avantage qu'on a en récoltant cette matière-là, les déjections de poules, c'est que là, on a une matière aussi qui est vivante, là. C'est qu'on a vraiment quelque chose de vivant, qui est fortement azoté. C'est une des grandes propriétés de la déjection de la poule, fortement azoté. Donc, c'est vraiment une matière qu'on va essayer de recycler le plus possible chez soi, dans nos potagers, dans nos jardins. Puis la manière la plus simple, à mon avis, c'est de faire composter cette matière-là. C'est que d'un côté, vous avez la déjection de poule qui est fortement azotée. Puis en compostage, vous savez que ça prend la matière carbonée pour que le mélange des deux puisse faire un bon compost. Puis, heureux hasard, si hasard il y a, c'est que la litière, souvent, ça devient la matière carbonée. Souvent, c'est des copeaux de bois qu'on va mettre dans le fond du poulailler. Copeaux de bois, c'est du carbone. C'est vraiment des résidus des usines de siège de 2x4, je dirais, là. Fait que c'est vraiment du carbone. Fait que c'est déjà un très bon mix à la base pour avoir un compostage. Ça fait en sorte que le processus de compostage va éliminer le faible risque de présence de pathogènes qu'il pourrait y avoir dans les déjections des poules. Là. Mais je dis très faible risque, encore une fois. Là, faut pas virer fou avec ça, à mon avis. Et puis, ça fait en sorte qu'une fois que la matière est compostée, ça devient une fertilisation... Qui est moins intense. Si on mettait des déjections de poules en bonne quantité à la base des plantes, ça pourrait vraiment brûler le système racinaire. Mm-hmm. Fait que ça vient, je dirais, étaler dans le temps la distribution de la fertilité dans le sol. Là. Fait que ça vient un peu stabiliser la matière.
OK. Puis on a parlé brièvement, on est passé rapidement sur la question de l'hiver tantôt, mais donc on peut garder des poules l'hiver.
Oui, ben je le recommande vraiment. On dirait, c'est en passant la question que je reçois le plus et de loin, qu'est-ce que tu fais avec tes poules en hiver? Ouais. Il y a une espèce, on dirait, de compassion, d'empathie pour cette petite bête plumée-là qui est au milieu de l'hiver. Tu sais, on pense qu'elle va être en détresse. La poule tolère moins bien la chaleur que le froid. On l'a évoqué un petit peu tantôt par rapport aux poules sur les toitures. Donc ça, c'est première chose. Puis deuxième chose, faut savoir que les poules ont différents niveaux de tolérance par rapport au froid. Il y a environ 45 races de poules qui, naturellement, vont bien résister au froid. Puis ça fait en sorte qu'en choisissant ces races de poules-là, on a moins besoin de chauffer notre poulailler. Quand on est dans des grands froids, à ce moment-là, il va falloir pallier à la situation en mettant un élément chauffant. Souvent, les gens, ce qu'ils mettent, c'est une petite lampe chauffante, une ampoule chauffante. Ça peut très bien faire l'affaire à mm-hmm. faible coût. Mais c'est très possible de garder les poules l'hiver. C'est même avantageux parce que si vous vouliez, par exemple, récupérer ces mêmes poules-là au printemps, mais sachez qu'il y a un risque de propagation de maladies, parce que souvent, on envoie
dans des pensions,
dans des refuges, des pensions, mm-hmm. tu sais, chez un agriculteur. Fait que là, à ce moment-là, on peut brasser un peu les maladies, les pathogènes. Aussi, quand vous allez les retrouver, la hiérarchie va être remise en place aussi, parce que là, il y avait un nouveau groupe. Il y a du stress induit aussi chez l'animal. Fait que si on peut les garder chez soi, c'est vraiment à favoriser, à mon avis, là. Fait que le premier choix à faire, moi, je fais toujours la comparaison avec les zones de rusticité pour les végétaux. Si on va au Québec, on a des zones de rusticité réparties sur le territoire. Fait que pourquoi pas choisir des poules qui naturellement vont résister à mieux à l'hiver, mm-hmm. je dirais.
Tu as une couple d'exemples de races qui
oui,
sont
particulièrement... Oui, il y en a plusieurs. Comme je disais tantôt, il y en a à peu près 45. Il y a notre race patrimoniale québécoise qui est la Chantecler, mm-hmm. qui a été développée vraiment pour résister à nos rigueurs hivernales. C'est une poule qui a une crête puis des barbillons atrophiés. Fait que ça fait en sorte qu'elle perd moins de chaleur par ses bouts de peau-là qui pendent au vent. Elle n'a juste pas ou très peu dans son cas. Il y a la Plymouth Rock, il y a la Rhode Island Red, il y en a l'Australorp, il y a l'Americana. Il y en a à peu près 45 races, fait que c'est vraiment pas limitant si on veut s'enligner vers ces races de poules-là plus résistantes à l'hiver.
OK. Puis est-ce que c'est dur à trouver, ces poules-là?
C'est pas si dur que ça. C'est sûr que les races de poules les plus simples à trouver, c'est les races plus hybrides. On n'en a pas vraiment parlé encore, là. C'est les races de poules. En fait, c'est pas une race, en fait.
Ouais.
C'est des poules qui sont croisées pour répondre aux besoins de la production d'œufs commerciales. Fait que c'est les poules qui vont donner à peu près un œuf par jour. C'est les poules rousses de ce monde. C'est une des plus populaires. Souvent, les gens, c'est celles qui achètent. Puis c'est la plus accessible. On les trouve dans les coop agricoles, tout ça, là.
Mm-hmm.
Si on va aller vers des poules de race, à ce moment-là, on va regarder souvent du côté des petits éleveurs. Puis il existe des ressources à ce moment-là. Il existe un répertoire des éleveurs québécois de ces types de races-là. On peut y aller par région, tout ça. On pourra peut-être mettre le lien. Je ne sais pas si c'est possible.
Ouais, ouais, on met toujours tous les liens pertinents sur la page de l'épisode. Ouais.
Parfait. Fait qu'on mettra le lien à ce moment-là. Et puis, on peut faire des recherches Facebook aussi. Il y a panoplie de groupes, mm-hmm, d'échanges ben oui. à ce niveau-là. Mais sachez qu'il n'y a pas d'encadrement dans la qualité des pratiques des éleveurs et des éleveuses. Fait que l'idéal, c'est de se déplacer. C'est ce que je recommande aux gens parce mm-hmm. que juste visuellement, on peut voir si c'est mal propre, s'il y a 3 cm de merde partout dans le poulailler, ça sent une odeur infecte. On s'entend que c'est pas bon signe, tu sais. Il y a d'autres choses à regarder, mais ça, c'est déjà un bon indice. Fait qu'on peut regarder un peu de ce côté-là.
Fait que là, on parle d'acheter des poules. On n'a pas tant parlé, mais c'est sûr qu'on va acheter de la moulée, on va acheter un poulailler ou des matériaux. Est-ce que c'est rentable, toute cette affaire-là, là?
Ben moi, je l'ai calculé dans les premières années où j'ai commencé mes expériences avec les poules. J'ai vraiment calculé tous les coûts fixes, fait que tout l'équipement, le poulailler, moi, je l'ai construit moi-même, fait que j'ai calculé les matériaux, ouais. Tout ça. Puis les coûts plus récurrents, c'est le gros poste budgétaire, c'est la nourriture. Mm-hmm. Surtout si vous êtes dans le bio aussi, sachez-le, là, c'est à peu près deux fois et demi le prix de la moulée conventionnelle. Faites vos choix en conséquence, tout simplement. Fait que j'ai fait un petit projet type, si on veut. Mettons qu'on achète 4 poules de race qui vont donner à peu près 200 œufs par année. On est en moulée biologique, un poulailler peut-être avec tout l'équipement qui a coûté 1 000 $. Puis à 1 000 $, on est quand même bien équipé, là. C'est un projet qui, si on compare avec les œufs biologiques qu'on n'a pas acheté, mm-hmm. la douzaine d'œufs étant à 7 $, 7 $ et demi environ, là.
Ouais.
Un projet comme ça pouvait se rentabiliser au courant de la troisième année.
OK.
Fait que ça peut devenir rentable de le faire de ce côté-là.
Ouais, si on veut le voir comme ça, parce qu'il y a tellement d'autres avantages à côtoyer. Absolument. Les poules au quotidien que... Ouais.
Moi, c'était pas du tout un critère de me lancer dans cette mm-hmm. activité-là. C'est juste que j'avais plein d'infos. J'ai dit, ça serait le fun d'essayer de faire une démonstration comme ça. Puis c'est possible.
Ben ouais, ben c'est une question qui est souvent posée. En tout cas, nous, là, dans le cadre de nos projets, tu sais, est-ce que je vais en avoir pour mon argent, ouais. en faisant de l'agriculture urbaine, là?
Ouais.
Et j'imagine que c'est un souci que les gens ont aussi au niveau des poules, parfois. Là.
Ouais, ça dépend de la raison. Ouais.
Ben, c'est
ça. Les ont poussés vers là, ouais.
Ouais. Peut-être pour convaincre son conjoint, tu sais. Toi, tu tripes, mais lui, comme là, tu m'embarques-tu dans une affaire qui va coûter cher?
Ben ouais.
C'est drôle ce que tu dis, parce que souvent, une des deux personnes qui est full motivée, puis c'est souvent la dame, je dois dire, là. Puis là, le conjoint est plus à la remorque. Fait que oui, ça peut devenir un argument,
c'est ça.
Effectivement.
Uh-huh.
Fait que vous l'avez dans votre poche, l'argument, mesdames.
Puis le fait d'avoir des poules sur son terrain, est-ce que ça a un risque d'attirer de la vermine? Est-ce qu'il risque de se faire attaquer?
Il y a comme deux choses, tu sais. Il y a les prédateurs, ouais. puis il y a la vermine.
Ouais.
Côté prédateur, il y en a plusieurs, qu'on soit à la campagne ou en ville. Je dirais, il y a un des plus redoutables, c'est le raton laveur, qui est très agile de ses mains, mm-hmm. très intelligent aussi, capable de grimper. Le gros avantage qu'on a sur lui, c'est qu'il est nocturne, puis que la poule, naturellement, elle s'en va dans le poulailler la nuit. Elle va se réfugier. Fait qu'à ce moment-là, il faut juste s'assurer que les ouvertures du poulailler soient bien fermées, puis idéalement barrées, je dirais. Si vous avez un loquet simple, le raton laveur pourrait réussir à l'ouvrir. Okay. Puis il y en a d'autres plus communs, comme les chiens. Les chiens, souvent, deviennent mm-hmm. très excités. Puis à ce moment-là, on dirait que l'instinct de prédation peut embarquer, puis là, pourrait rentrer dans l'enclos des poules puis faire du dommage. Mm-hmm. Lui, il veut peut-être juste s'amuser, mais il peut faire vraiment du dommage. Fait que côté prédateur, il y en a quelques-uns de ce côté-là, fait que c'est sûr qu'il faut avoir un environnement qui est sécuritaire au niveau du poulailler puis de l'enclos. Puis du côté de la vermine, ce que j'entends, c'est plus, mettons, mulot, souris, ces choses-là qui peuvent être attirées. En fait, ils ne sont pas attirés par les poules, ils sont plus attirés par la nourriture qu'il ouais. pourrait y avoir. Fait que si vous avez, mettons, votre réserve de moulée proche du poulailler, assurez-vous que ça soit un endroit qui soit inaccessible. Moi, au départ, j'avais des poubelles en plastique, puis les mulots ont fini par creuser un petit trou dans le bas du contenant en plastique pour aller à mon insu.
Ah ouais.
À un moment donné, je m'en suis rendu compte. Mais ils sont allés consommer mm-hmm. Des choses-là, puis ils sont attirés aussi... Surtout si vous gardez des poules l'hiver, par la chaleur qui pourrait y avoir dans votre poulailler. Ils cherchent un endroit où se réfugier.
Ben oui.
Moi, je reste à la campagne, puis à chaque automne, quand il commence à faire froid, là, un endroit dans mon mur, j'entends gratter.
Uh-huh.
Donc, il y a une petite souris à chaque année mm-hmm. qui essaie de rentrer. Ça doit pas être la même, j'imagine, mais il y a comme un spot. Fait qu'ils cherchent à rentrer vraiment pour aller à la chaleur.
Mm-hmm.
Mais si les poules ont accès à la vermine, ils vont les chasser. La poule qui voit passer une souris, elle va la manger.
Ah ouais.
Avec grand plaisir, là. Il y a des vidéos qui existent, vous irez voir sur YouTube, là, j'ai vu une vidéo de chat, là. Le chat est devant une souris, puis il est comme... il sait pas trop quoi faire, il y a une poule pas loin, là, puis c'est comme un petit vélociraptor.
Oui. Je l'ai vu.
Dans un mouvement très, très brusque, là, fonce dessus, ramasse la souris, puis le chat, fait, qu'est-ce qui s'est passé? T'as uh-huh. manqué ton coup bonnet.
C'est
meilleure
clair.
Chance la prochaine fois. Fait que le mieux, dans le fond, c'est de pas avoir de racoin où la vermine pourrait aller se réfugier sans que les poules aient accès à cet endroit-là l'hiver, tu sais.
OK.
Quand on a présenté ton entreprise, on a mentionné que ta pratique s'inscrivait dans ce mouvement, hein, dont on entend toujours de plus en plus parler, qui est la permaculture. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça veut dire pour toi puis comment ça se traduit dans la garde de poules?
En fait, moi, j'utilise le prétexte des poules pour comme éduquer les gens puis allumer les gens sur la permaculture. En fait, pour moi, la permaculture, c'est un peu de reproduire ou de mettre les éléments en place sur sa propriété pour que la magie de la nature puisse opérer. Dans la nature, il y a tout est interconnecté de multiples façons. Fait que les gens peuvent avoir des poules, par exemple, chez eux, puis les mettre dans le fond de la cour, puis sont déconnectés de tout le reste. Puis c'est une façon de faire qui est correcte, mais moi, dans les formations, dans les conférences, j'essaie de leur dire, regardez, là, la poule a des comportements naturels que si vous les mettez en valeur, vous allez avoir des bénéfices. Il y a des services écologiques. Vous allez reproduire du recyclage de matière, parce qu'on en a parlé un petit peu tantôt. La poule, dans le fond, est très... premièrement, elle est omnivore. Fait qu'elle est capable de non seulement manger des végétaux, mais aussi de la viande. Donc, vous voyez l'avantage par rapport au composteur domestique qu'on a chez soi. La viande, si vous mangez de la viande, les résidus, on devrait pas les mettre ou en très faible quantité dans le composteur parce que ça peut développer là, des vers, des choses comme ça, attirer des prédateurs, de la vermine, tout ça. La poule, elle va s'en délecter.
Mm-hmm.
Puis, vous devrez voir mes poules, mettons, quand on fait un jambon, là, avec sa couenne, tout ça, on le fait dans la mijoteuse, là, on va le dégraisser, puis on va donner ça aux poules, le désosser, là, puis c'est la fête. Visiblement, c'est très, très la fête à ce moment-là.
Je composte presque plus depuis que j'ai des poules.
Exact.
Parce que mes poules mangent mon compost, puis je composte leur fumier. Il y a comme un maillon de plus dans la chaîne, finalement. Mm-hmm. Là.
Ouais. Oh, oui, exactement. Puis c'est ça, tu peux mettre les poules en relation, justement, avec ton composteur, puis tu te fies... Parce qu'il y a quelques aliments qui sont proscrits pour les poules, mais à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a l'intelligence animale qui fait en sorte que la poule, elle va pas manger ce qui est pas approprié pour elle. Tu sais, notamment l'avocat, le céleri, des arachides, des trucs comme ça, du chocolat. Chocolat pour les animaux en général.
Si tu composes ton chocolat, t'as un problème.
Oui, clairement.
À mon avis, oui.
Ça devrait pas se rendre au compost.
Appelle-moi si t'as de l'over. Je suis disponible n'importe quand. Fait que oui, il y a plein d'avantages. Il y en a d'autres aussi, si on veut se partir une petite parcelle de jardin puis qu'on commence sur de l'herbe, de laisser les poules au même endroit un certain temps, elles vont toutes désherber.
Mm-hmm.
En plus, elles vont engraisser le sol. Fait que ça prépare vraiment une parcelle de culture facilement. Faut juste leur donner le temps de faire ça. Elles peuvent aussi déparasiter. C'est une des choses qu'elles font de par leur recherche, je dirais, incessante de nourriture. Si vous avez, par exemple, quelques arbres à fruits, des pommiers, par exemple, vous pourriez avoir des mouches de la pomme qui vont pondre des œufs dans la pomme. La pomme, avant maturité, va tomber au sol. Il y a une larve dans la pomme qui, si on fait rien, elle va repénétrer dans le sol et le cycle va se reproduire l'année suivante. Mais si on fait intervenir les poules, escouade poulette, à partir du moment où les poules tombent au sol, elles vont manger les pommes, manger les vers, fait que c'est des pommes plus protéinées, c'est le fun. Puis à ce moment-là, elles font un clean-up. Qui fait en sorte qu'on brise les cycles de maladie.
Je pense qu'on en a besoin de chez nous. Moi, j'ai un pommetier plein de verre, fait qu'il va falloir mettre des poules là-dedans.
Ça serait à essayer.
Il va falloir.
Ouais.
fait que ce que tu veux dire, au fond, pour revenir à la permaculture, c'est que les poules, tu les inscris dans un contexte où elles sont interreliées avec le plus d'autres aspects de la propriété pour créer un système, finalement, fonctionnel, efficace, abondant, qui rend les gens heureux en plus.
Exactement. C'est de la mettre en relation avec les autres choses, comme ça se passe dans la nature, évidemment. Puis c'est là que la magie va se mettre à opérer, puis que ça va devenir le fun, dans le fond, d'observer aussi ce qui se passe. Il y a énormément d'apprentissage à faire de ça. Puis moi, c'est ce que je trouve le fun aussi dans les expériences que je fais, c'est que j'apprends encore des choses, là. Il y a des fois, il y a des trucs que j'enseigne, puis là, j'observe quelque chose, puis ça me doute, qu'est-ce qui se passe. Fait que là, à ce moment-là, tu peux te mettre à raisonner, puis tu peux te mettre aussi à y aller plus dans ton ressenti, dans tes intuitions. OK, c'est peut-être quelque chose de ce type-là qui se passe. Fait que c'est très aussi enrichissant comme expérience.
Mm-hmm. C'est très sain comme attitude de laisser le doute, même si on est un formateur aguerri, expérimenté, de remettre en question ce qu'on sait puis ce qu'on pense.
Pour moi, c'est comme nécessaire.
Ben oui,
c'est comme nécessaire parce que je n'ai pas du tout la vérité absolue. Loin de là, il faut être très humble dans ce qu'on fait aussi, là. Puis il y a des participants, participantes à mes formations, conférences qui me parlent de quelque chose puis qui m'apprennent des choses aussi. Puis ça, c'est le fun, là.
Mm-hmm.
Faut pas faire la grosse tête par rapport à ça.
Non, ça nous arrive aussi aux urbains d'avoir diffusé des formations très longtemps puis de tout d'un coup, ah ben, finalement.
Hein, comme on en a vécu un petit peu dans notre épisode avec Larry Hutchin qui nous déboulonnait quelques mythes.
Oui.
Il y a un conseil qu'on a ôté de notre vidéo.
Oui.
Mais au podcast, on apprend des choses aussi.
Ben oui. Fait que si vous avez le goût de vivre l'aventure poules, vous allez sûrement vous poser plein de questions qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Bon, pour aller plus en profondeur, par exemple, sur la question de l'alimentation, on n'a pas parlé des poussins, peu des races de poules, les maladies, les problèmes de comportement, tout ça. Il y a évidemment beaucoup d'informations sur le web, si vous avez bien du temps puis que vous êtes patient. Mais il y a aussi des personnes qui ont défriché le terrain pour vous, comme on en parle, et qui ont rassemblé toutes les informations nécessaires dans un tout cohérent qu'on appelle un cours.
Un cours!
Fait que Martin Boisvert est justement une de ces personnes. Donc Martin, en conclusion, est-ce que tu peux nous parler des cours que tu offres puis des services de ton entreprise?
J'ai développé une formation que je donne depuis 2016 qui dure maintenant 4h30 là, pour couvrir vraiment tous les sujets pour que les gens qui la suivent se sentent à l'aise pour se lancer dans cette activité-là. Mon objectif, je le rappelle, c'est vraiment que les gens puissent voir au bien-être de ces animaux-là. C'est ça qui est comme ma motivation principale. Fait qu'en 4h30, on couvre vraiment tous les sujets pour que la personne se sente à l'aise dans ce sens-là. Mm-hmm. Fait que formation de ce côté-là, j'offre aussi des conférences à gauche puis à droite dans des événements comme les fêtes de semences. Parfois, il y a des sociétés d'horticulture qui demandent mes services pour aller faire une présentation parce que évidemment, il y a un engouement de ce côté-là, puis il y a des beaux liens à faire avec le jardinage. Mm-hmm. Aussi, je suis très actif, je dirais, sur les médias sociaux. J'aime ça beaucoup partager, notamment sous la forme de vidéos. Fait que les gens peuvent me suivre sur la page Facebook de ma petite entreprise Néoterra. J'ai une chaîne YouTube aussi. J'invite aussi les gens à s'inscrire à l'infolettre que j'ai appelée la voyageuse poulette. Où là, je transmets aussi des informations, je fais des annonces, tout ça. Mais aussi, si les gens s'inscrivent, je vais leur donner accès à mon outil de recherche des races de poules. C'est que j'ai répertorié 74 races de poules ainsi que leurs caractéristiques. Puis c'est un outil qui permet de faire des recherches. Par exemple, si ce qui vous intéresse, c'est la rusticité aux rigueurs hivernales, si c'est, par exemple, la couleur de l'œuf, ben vous pouvez faire un choix, puis ça va préciser, dans le fond, votre sélection en fonction des critères que vous allez choisir.
Okay.
Fait que c'est un outil qui est gratuit, il s'agit juste de s'inscrire, dans le fond, à l'infolettre. Et puis, il y a quelque chose que je veux développer cette année, puis donc ça peut être une espèce d'appel à tous que je fais en ce moment.
As-tu un scoop pour moi, je patate?
Je l'ai annoncé, mais très dans ma dernière infolettre. C'est en fait, j'aimerais ça développer un projet scolaire.
Okay.
J'aimerais ça, je sais que ça existe. Il y a notamment à Rivière-Ouelle, j'ai entendu l'année passée, il y avait introduit les poules dans un cadre pédagogique, dans un cadre vraiment de projet là, réunificateur et à différentes portées. Puis j'aimerais ça développer un peu, moi, cette expertise-là, puis aussi pouvoir offrir de l'accompagnement parce que je pense que c'est tellement porteur.
Mm-hmm.
Vraiment des beaux gains à faire de ce côté-là. Alors, s'il y a des gens qui pensent que l'école où vont leurs enfants ou travaillent dans une école où ils pensent que ça serait souhaitable et bienvenu, une telle activité, mais ils ont juste à me contacter à ce moment-là puis on va pouvoir regarder ça. Là.
Puis dans n'importe où au Québec ou dans une région en particulier?
C'est sûr, plus proche de la région de Québec, c'est le mieux, là, okay. Parce qu'il y a la dynamique des déplacements, évidemment, à considérer, là, mais on peut démarrer un dialogue sans problème, même si c'est plus éloigné. Là.
C'est bon, parfait. Fait qu'on va mettre tous les liens pertinents, là, c'est ça, sur la page de notre site web, là, donc la page de l'épisode, vous irez voir.
Ben merci Martin!
Hey, un grand plaisir, merci à vous deux!
Ça a été vraiment intéressant, j'espère qu'il va y avoir beaucoup de gens prêts à... Ben qui vont avoir envie de se lancer dans l'aventure, mais qui surtout vont avoir envie de se lancer dans l'aventure des poules en étant très bien informés.
Ben oui, c'est mon souhait, le plus cher, je dirais, là, c'est ouais. Ce qui donne du sens à ce que je fais.
Bien entendu!
Merci beaucoup!
Merci.
Les petits pois, c'est un légume très tendre. Les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts.
Le mois de mars, c'est déjà le temps de penser à la production de nos transplants pour le potager. Lorsqu'on se lance dans la production de nos propres plants, on peut rapidement sentir un grand vertige. Est-ce que je dois partir mes tomates tôt dans l'année? Est-ce que je peux semer mes haricots directement au champ? Est-ce que je peux faire plus d'un semis dans l'été? Chaque plante ayant ses caractéristiques spécifiques, il est difficile de tout retenir par cœur. Pour vous rassurer, ça fait maintenant plusieurs années que je jardine et je commence seulement à m'approprier ces notions. Pour vous enlever cette pression et vous aider dans cette démarche, je vous encourage vivement à vous doter d'un calendrier de semis, un outil indispensable et ô combien pratique. Vous en retrouverez facilement sur le web, certains semenciers en offrent même en version imprimée et visuellement très accessible, ce qui peut faciliter la compréhension. Assurez-vous d'en choisir un fait pour votre climat, mais sachez que ces calendriers servent de guide. Ils devront potentiellement être adaptés selon les saisons et les spécificités de votre environnement. Que retrouve-t-on sur ce calendrier? Les renseignements peuvent varier d'un calendrier à l'autre, en voici quelques exemples. Vous pourrez vous renseigner sur les végétaux qui doivent absolument être semés à l'intérieur avant d'être transplantés au jardin et ceux pouvant être semés directement à l'extérieur. Les moments de semis et même parfois de repiquage sont habituellement présentés sous forme de périodes, par exemple de mi-mars à mi-mai. On y retrouve aussi les moments de transplantation au jardin. Pour ceux qui souhaitent maximiser leur production, des informations sur le moment où l'on peut faire un deuxième ou un troisième semis d'une culture donnée s'y retrouvent parfois. Lorsqu'on commence à jardiner, on ne sait pas toujours quand récolter nos légumes. Cette information y est souvent indiquée. Certains renseignements, même sur le nombre de jours avant la germination et sur les distances de plantation au potager, bref, une multitude de choses pertinentes qui vous aideront à démarrer la saison en beauté. À la lumière de toutes ces informations, ai-je réussi à vous convaincre?
Alors, chers auditeurs du Manche Patate, il y a un aspect important de la garde de poules qu'on a seulement effleuré, et puis ça, c'est le cadre législatif. Donc, si l'aventure des poules vous intéresse, sachez que ce n'est pas permis partout. Le mieux, c'est de vérifier avec votre municipalité si c'est permis, et si oui, c'est pas mal certain qu'il y a un règlement qui encadre, par exemple, le nombre de poules permis, la présence d'un coq, le poulailler lui-même. Des fois, il faut demander un permis au même titre qu'un cabanon, par exemple. Et puis, si c'est pas permis et que vous êtes prêt à assumer les conséquences, bien, sachez que c'est très, très souvent toléré tant qu'il n'y a pas de plainte des voisins ou de l'entourage. Donc, si vous parlez de votre projet justement à vos voisins à l'avance, que vous avez leur accord et que vous achetez leur bonne volonté à coups de bons œufs frais de temps en temps, bien, il y a des bonnes chances que tout aille bien.
Alors, c'est ce qui conclut notre épisode aujourd'hui. Si ça vous intéresse, on va vous mettre, hein, comme on le disait, le lien du site de Martin de Néoterra, finalement, pour que vous puissiez aller voir les dates de ses formations. Et puis, Martin nous renseignait là, qu'il lance aussi très bientôt une formation en ligne là, que vous allez pouvoir faire à votre rythme. Donc, allez voir sur son site, puis inscrivez-vous à son infolettre pour être tenu au courant. Comme d'habitude, on vous remercie de nous avoir écoutés, puis on se retrouve dans 2 semaines pour un autre épisode de Manche Patate. Bye bye!
Salut!